Ah, j'avais hâte de retrouver notre ami Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Tout simplement parce que, bon, le sujet, tu le sais, m'intéresse depuis toujours, le sujet du baseball, du retour du baseball à Montréal. Et la semaine a passé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de nous d'en jaser ensemble. Des derniers propos du propriétaire des Rays de Tampa Bay. Et je t'écoute nous présenter l'affaire, Philippe.
Oui, c'est vraiment intéressant. Stuart Strasburg était à San Diego cette semaine. Ce sont les assises du baseball majeur qui étaient tenues là-bas. C'est maintenant terminé. Et puis, au début de la semaine, il y aura encore rencontré un groupe de plusieurs journalistes de Tampa Bay qui voulaient évidemment lui parler un peu de l'avenir à court terme des Rays, mais également de l'avenir à long terme et de ce plan de garde partagé. Alors, il y a eu deux excellents articles que j'ai dévorés, un sur le site de The Athletic et un autre dans le quotidien local Tampa Bay Times, où le journaliste est resté un petit peu plus longtemps avec Stuart Strasburg, donc il est arrivé également avec des informations additionnelles. Mais disons, première chose, c'est j'ai été franchement renversé par la manière très convaincante dont Stuart Strasburg défend le projet de garde partagée. Il en parle avec éloquence, assez pour ébranler un peu mes convictions. Tu sais que je trouve pas que c'est une grosse idée. Mais de la manière dont il parle, il place ça dans une perspective de développement. Il dit, écoutez, il dit, à part les 10 plus grandes villes aux États-Unis, là, remplir un stade de baseball pendant 81 matchs locaux, c'est très, 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 très difficile. Et moi, il dit, je veux garder le baseball à Tampa Bay pour des générations à venir, mais il en vient à la conclusion qu'une équipe à plein temps là-bas, ça ne fonctionnera jamais, non seulement parce qu'il n'y aura jamais assez de gens dans les estrades, mais il dit en plus, l'appui corporatif n'est pas là. Puis une des raisons, c'est que, c'est sûr que c'est une excellente température pour le baseball au mois d'avril, au mois de mai à Tampa Bay, mais il dit, quand on arrive dans le gros de l'été, il fait trop chaud, les gens quittent Tampa Bay, ils s'en vont en vacances ailleurs. Et il dit, à Montréal, c'est exactement le phénomène inverse. Alors, en avril, en mai, les gens suivent encore le hockey, il y a encore des mauvaises journées de printemps, les gens commencent à sortir, mais très peu, mais il dit en juin, quand arrive le mois de juin puis le mois de juillet, il dit c'est le party à Montréal avec tous les festivals, les gens ont le goût de sortir, les gens ont le goût d'aller dans la rue, d'aller dans des manifestations publiques, ils ont le goût de voir des gens, ils ont le goût de s'amuser et il dit c'est une ville spectaculaire. Alors il dit, imaginez une équipe qui jouerait 40 matchs là à partir du mois de, disons, fin juin, début juillet. Les gens viendraient de Toronto, de New York et de Tampa Bay aussi. Il dit, il y a des fans qui viendraient très certainement voir leur équipe. Alors, il en parle avec beaucoup d'enthousiasme. Mais tu vois qu'il a bien étudié la question, parce que quand il parle du Canadien, on le sait tous là, que si le Canadien va en séries éliminatoires, l'équipe de baseball va passer deuxième sans l'ombre d'un doute. Alors, il est très réaliste. Donc, la démonstration qu'il fait est assez convaincante. Et lui, il va plus loin que ça, Mario. Il dit même qu'il a la conviction que des équipes en garde partagée, il va en avoir dans d'autres sports. Et il dit au baseball, c'est sûr que ça va arriver. Il dit, c'est même pas dans sa tête à lui, ça ne fait aucun doute, c'est sûr que ça va arriver. Parce qu'il dit, il y a tellement d'avantages. Il dit, ça coûte cher une équipe de baseball. Alors il dit, écoutez, pour les fans, pour les entreprises qui veulent appuyer, être des commanditaires, si c'est la moitié d'une équipe, au fond, en garde partagée, bien, c'est la moitié de la facture. C'est pas mal plus facile de payer un demi-billet de saison au baseball qu'en payer un au complet. Une loge pour 40 matchs plutôt que 80 matchs, bon, etc. Toutes les ententes qu'on peut avoir avec des compagnies. Alors, lui, il voit ça encore avec beaucoup d'optimisme. Il dit, ça va arriver. Il dit, moi, je souhaitais que ça arrive en 2024, en 2025. Il dit, maintenant, le maire de Saint-Pétersbourg, Kreisman, a dit que lui, il ne voulait pas. Alors, il dit, on va attendre 2028, puis ça arrivera en 2028. Alors, il semble très, très convaincu. Il dit que lui, il n'a pas du tout dans la logique d'aller négocier avec le maire Kreisman pour faire quitter les Rays plus vite, tout ça. De toute façon, Kreisman, il est en poste là, jusqu'à la fin de 2021. Il y aura un nouveau maire, semble-t-il, en 2022. Là, je ne suis pas extrêmement familier avec les élections dans le comté de Tampa, mais en tout cas, c'est un peu ça qu'on semble expliquer dans l'article du Tampa Bay Times.
Mais tu me permets de souligner ce que tu me disais cet après-midi, c'est que lui, c'est sûr qu'il faut inclure Montréal là-dedans quand il dit qu'il y a peut-être juste 10 villes dans le baseball majeur qui sont capables d'alimenter en spectateurs un calendrier 82
matchs. Mais Montréal n'est pas là-dedans.
Et Montréal n'est pas là-dedans. Donc, il ne croit pas une équipe à temps plein à Montréal, en tout cas jusqu'à ce qu'on lui prouve le contraire.
Exactement. Et ça, c'est la particularité de l'article du Tampa Bay Times. C'est qu'il a dit au journaliste qui l'a interrogé puis qui est resté un petit peu plus longtemps avec lui, il dit, je crois beaucoup à Montréal en garde partagée, mais si ça ne fonctionne pas la garde partagée, je ne me vois pas déménager l'équipe à plein temps à Montréal. Il dit, je ne pense pas que ça fonctionnerait à Montréal à plein temps. Il dit, à l'heure actuelle, pour une équipe à plein temps, il y a de meilleurs marchés que celui de Montréal. Et il dit, la seule façon que je pourrais changer d'idée, c'est si Stephen Bronfman me faisait la démonstration que l'appui corporatif pourrait être au-delà de ce que je pense qu'il sera véritablement. Alors donc, il n'y croit pas vraiment, mais il dit c'est la même chose pour Tampa Bay. Puis il dit d'ailleurs, il dit à l'heure actuelle, dans tout le projet de cartes partagées, ils sont pas mal plus avancés à Montréal qu'à Tampa. Il dit à Montréal, ils parlent déjà d'un site. Ils savent qu'il y a un nouveau système de transport en commun qui devrait passer à côté du stade. Donc, il dit, ils avancent, alors que nous, à Tampa, on est encore un peu dans l'inconnu.
Mais justement, bon, on parle du fait que ça avance à Montréal, mais si c'est repoussé à 2028 sans aucune garantie, tu penses Ça va avancer encore. Puis,
ouais,
là, ben, sécuriser un terrain pour un stade d'une équipe que tu sais pas qui va venir.
Ben, d'après ce que si j'interprète l'article, il dit qu'il faut travailler sur ce dossier-là dès maintenant. Tu sens qu'il aimerait qu'il y ait des études beaucoup plus poussées qui soient faites sur le potentiel de cette idée-là. Lui, de son côté, regardait à Tampa Bay, est-ce qu'on peut bâtir un stade à ciel ouvert pour le début de la saison, pour la première moitié de saison. Puis il dit, pour les joueurs, là, il dit, oubliez ça, l'idée que les joueurs, ils seraient constamment en train de changer d'endroit puis changer de ville, tu sais, parce que tout le monde dit, voyons, une équipe à deux têtes, ça n'a pas de bon sens, les joueurs, ils seront jamais chez eux. Il dit, moi, je le vois d'une façon différente. Il dit, parce qu'on tiendrait le camp d'entraînement dans notre véritable stade, ce qui fait que les joueurs seraient à Tampa Bay du début du camp d'entraînement, disons le 15 février, jusqu'au départ pour Montréal, qui serait probablement à la fin du mois de juin. Alors, il dit, prenez avec une autre équipe, une équipe à Seattle, ben ils s'en vont en Arizona pour le camp d'entraînement, c'est un mois et demi là-bas, après ça ben ils divisent entre Seattle puis les villes de voyagement. Alors il dit, nous à Tampa Bay, il dit les joueurs resteraient à Tampa Bay du début du camp d'entraînement jusqu'au moment où on déplacera à Montréal pour 3 mois. Alors, il dit, moi, je pense que ça poserait pas un grand problème. Puis, il règle tous les autres problèmes tellement aisément. Ouais, mais les séries éliminatoires, il arriverait quoi si l'équipe, est-ce que ça serait à Montréal, à Tampa Bay? Ben, il dit, on pourrait commencer la première année qu'on fait les séries, ça serait, disons, à Montréal ou à Tampa Bay. Puis, la deuxième fois qu'on fait les séries, ça serait dans l'autre ville, puis on alternerait. Ou encore, il évoque aussi l'idée d'alterner de série en série. Alors, mais tu sens que pour lui, ce type de problèmes-là, où on jouerait en série, ce sont des problèmes, je dirais pas anecdotiques, mais disons que ça tombe plus loin dans la palette des dossiers qu'il y a à régler dans tout ça.
Il y a beaucoup d'éléments intéressants dans sa réflexion, si je suis rationnel, mais il y a quelque chose, il y a une petite voix qui me dit aussi, quand j'entends le résumé de ses propos, ouais. Philippe, que c'est, je sais pas si c'est une des explications du fait que ça poigne pas à Tampa Bay, mais il est déconnecté d'une réalité du sport professionnel. C'est que si tu réussis pas à créer d'attachement émotif entre un public, un marché et son équipe, ben, tu vas frapper dans le beurre. Honnêtement, je veux dire, tu pourras en parler pendant 10 ans. Moi, là, écoute, je suis ouvert à changer d'idée. Il y a rien que les fous qui ne changent pas d'idée, comme on dit. Mais aujourd'hui, là, en ce vendredi très drôle de date de faire un gros statement, je pense que ça arrivera jamais. J'y crois pas. Je vois pas comment ça va prendre forme. Je vois pas comment ils vont soulever l'enthousiasme, à moins qu'ils convainquent aussi. Et là, je parle de Bronfman et compagnie qui nous convainquent de tu sais, juste le nom de l'équipe, Go Rays Go.
Ça fonctionne pas.
J'écoute. Excuse-moi, Philippe, j'embarque pas. Mais tordez-moi un bras à quelqu'un, puis je vais peut-être me laisser convaincre. Mais je suis pas en désaccord avec le fait qu'on aurait de la misère à le faire vivre à l'année. Mais
Non, moi non plus. Mais je trouve qu'il présente le projet de façon quand même. Mais tu sens qu'il y met son cœur. Puis ce qui m'a le plus fasciné dans l'article, c'est qu'il dit que lui, dans sa tête, là, il n'y a aucun doute que ça va arriver des équipes en garde partagée. Il dit, si je pouvais miser là-dessus, si je pouvais investir là-dessus, disons qu'on pouvait acheter une action à la bourse, que oui, ça va arriver.
Il croit vraiment.
Puis là, je me suis mis à penser à... Prends la Ligue nationale de football, par exemple. On a longtemps parlé, puis le projet, tu sais jamais quand est-ce que ça pourrait arriver.
Buffalo-Toronto?
Oui, Buffalo-Toronto, ça n'a pas été un grand succès, mais ils l'ont essayé. Mais les Jaguars de Jacksonville, il y a l'idée qu'ils jouent plusieurs matchs par année à Londres. Ça a été évoqué déjà. Je pense qu'une année, ils en ont joué 2. Alors, quand tu as simplement 8 matchs à domicile, c'est quand même un bon pourcentage. Donc, tu sais, c'est Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Moi, je pense un peu comme toi que pour l'attachement, ça serait difficile. Puis on a beau dire, là, oui, c'est le fun, le baseball. Mais si les Rays Expo arrivent pour les matchs à Montréal le 27 juin, puis qu'ils sont à 17 matchs de la tête ou à 15 matchs de la tête dans la division Ouest de la Ligue américaine, je ne suis pas sûr que ça va être...
Imagine-toi une seconde, là, dans la ville où des conflits de travail nous ont privés, particulièrement en 1994, ouais, d'une série mondiale, là, que l'année que notre équipe en garde partagée va à série mondiale, on joue serré à Tampa.
Ouais, c'est ça.
Go Rays, go! Ah, là, je te dis, ça va être bon pour la vente de billets l'année suivante.
Ça serait très dur, puis c'est ça, surtout que Tampa, là, on va pas là comme on va à Ottawa ou à Québec. Non. Là. C'est pas tout à fait le même type de voyage.
Mais je le comprends comme homme d'affaires d'être ouvert à ça, parce qu'il y a une chose qu'on sait qui arrivera pas dans le baseball majeur, c'est qu'il y aura jamais l'opération grand dégraissage. Je résume ça peut-être un peu vulgairement, là, c'est pas très précis mon affaire, mais tu sais que je veux dire, c'est une industrie, là, où il y a une enflure incroyable, là, des dépenses, des salaires et de tout. Ouais. Scott Boras, un agent, vaut 3 milliards de dollars.
On l'a vu cette semaine. Hein?
Il vaut 3 milliards de dollars. Ouais. C'est un agent, Philippe.
Ouais, puis là, écoute, il a signé des contrats cette semaine là, pour ses joueurs d'une valeur globale de 814 millions de dollars pour les trois plus grandes stars, Jared Cole, Anthony Rendon, ouais, et puis Stephen Strasburg. Il est l'agent des trois. Les trois ont signé un lundi, un mardi, un mercredi. Total des contrats, 814 millions de dollars.
On paye la commission cette semaine. Ouais, hey, Philippe, il ne reste pas tout à fait 2 minutes. C'est-tu trop court? Parce qu'on peut très bien continuer avec enthousiasme sur le baseball. Sinon, un mot sur le Canadien ou l'autre sujet que tu voulais
Je vais parler des bagarres.
Oui,
je sais que tu en as parlé avec... Tu demandais à Danny puis à oui, Benoît tantôt. Oui. Eux, est-ce qu'ils en ont vu beaucoup des bagarres puis qu'est-ce qu'ils allaient voir?
Écoute, et moi, toi?
Écoute, j'allais voir les Remparts de Québec dans le temps, dans les Ligue majeure du Québec, quand les Éperviers de Sorel débarquaient au Colisée.
Oh,
je peux te dire que les soirées étaient longues puis des bagarres, il y en avait une après l'autre. Puis après ça, les Nordiques dans l'Association mondiale de hockey, on oublie ça un peu, mais les Nordiques, ça a été pendant une certaine époque une équipe qui était une équipe de bagarreurs. Ça avait presque... C'était épouvantable là, comment ça se battait souvent. Alors oui, j'ai grandi avec ça, mais aujourd'hui, tu sais, écoute, Danny l'a très bien dit, on veut interdire les coups à la tête, on veut diminuer les commotions cérébrales, puis on permet encore des coups de poing à la tête pendant une bagarre, ça n'a aucun bon sens. Alors moi, quand j'entends la nouvelle d'aujourd'hui, puis j'entends que dans la Ligue junior majeure du Québec, et c'est la nouvelle de TVA, une excellente nouvelle, qu'on commence à réfléchir très sérieusement à la question, qu'on s'interroge, qu'on se remet en question, j'applaudis avec enthousiasme à tout ça.
Ben, on peut pas faire autrement, mais avoue qu'on pourrait passer une belle soirée à se raconter un paquet d'histoires de l'époque où l'ambiance
sûr.
De zoo régnait.
Il va falloir
s'organiser une petite soirée du temps des fêtes pour se raconter
C'est ça. On se fera un quiz.
C'était qui la terreur de l'époque là, que t'as connu, toi?
Ah, ben, il y avait André Deschamps, Richard Nantais avec les Remparts, puis après avec les Nordiques, c'était Gordy Gallant et Kurt Brackenbury. Ça brassait à peu près.
Salut, Philippe!
Salut!
Bonne fin de semaine!
Ciao!
Bye! On revient avec Mario Tremblay dans un instant aux amateurs de sport.